Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission sur les pères. Nous avions vu la dernière fois avec Jean Chrysostome que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu jouissait de la science infuse par laquelle, il donne un nom aux oiseaux et à tous les animaux. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ce qui concerne toujours la création de l'homme et de la femme, mais dans le deuxième récit de la Genèse, au chapitre 2, versets 21 à 22. Quinzième homélie. Mais il ne se trouvait point pour Adam d'aide semblable à lui. Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil. Et pendant qu'il dormait, Dieu prit une de ses côtes et mit de la chair en sa place. Et Dieu produisit la femme de la côte qu'il avait ôtée à Adam. L'Écriture nous dit, mais pour Adam il ne se trouvait point d'aide qui lui soit semblable. Que signifie cette parole, mais pour Adam? Et pourquoi employer ici cette conjonction? Ne suffisait-il pas de dire « pour Adam, il ne se trouvait pas d'aide » ? Ce n'est point sans raison ni par simple curiosité que j'entre dans ce détail, et je me propose de vous apprendre par ce minutieux examen que dans l'Écriture, il ne faut passer légèrement ni sur un mot, ni sur une syllabe. Car ce ne sont point ici des paroles jetées au hasard, mais le langage de l'Esprit-Saint. Aussi peut-on y découvrir de précieux trésors, même sous une seule syllabe. Veuillez donc, je vous en conjure, m'écouter avec soin, et ne faites paraître ni lâcheté ni nonchalance. Soyez au contraire attentifs, et ne vous laissez point distraire par les préoccupations des affaires ou les soucis des choses temporelles. Car chacun doit être touché de la dignité de cette sainte assemblée, et ne pas oublier que c'est Dieu lui-même qui nous parle par la bouche de son prophète. Ainsi, quand vous, l'oreille et l'esprit soient ouverts et éveillés, afin que vous ne perdiez pas un seul mot et que la semence de la parole divine ne tombe point sur la pierre ou le long du chemin, ni parmi les épines. Puisse-t-elle au contraire se répandre sur une bonne terre, je veux dire en des cœurs bien préparés, alors elle se multipliera et vous produira des fruits abondants. Expliquons donc le sens de cette phrase. Mais pour Adam, il ne se trouvait point d'aide qui lui soit semblable. Et voyez d'abord avec quelle exactitude s'exprime la Sainte Écriture. Après nous avoir dit « mais pour Adam, il ne se trouvait point d'aide », elle poursuit et ajoute ces mots « qui lui soit semblable ». Cette addition nous fait comprendre le sens de la conjonction. Je pense que parmi vous, quelques esprits plus éclairés devinent presque ce que je vais dire. Mais il est de mon devoir d'instruire tous mes auditeurs et de me faire comprendre de chacun d'eux. C'est pourquoi je vous expliquerai les raisons qu'a eues Moïse de parler ainsi, mais il faut un peu de patience. Vous vous souvenez que l'écrivain sacré a précédemment rapporté cette parole du Seigneur « Faisons à Adam une aide qui lui soit semblable » et qu'ensuite il est revenu sur la création des bêtes, des reptiles et de tous les animaux. Et Dieu, dit-il, avait formé de la terre tous les animaux et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir devant Adam afin qu'Adam vît comment il les nommerait. Ainsi Adam leur imposa à tous un nom, comme étant le maître de tous. Et selon la sagesse qu'il avait reçue du Seigneur, il donna aux bêtes féroces, aux oiseaux et aux animaux domestiques le nom qui est resté leur nom propre. Mais quoique les animaux servent aux usages de l'homme et qu'ils l'aident dans ses travaux, néanmoins, par cela seul qu'ils sont privés de raison, ils lui sont bien inférieurs. C'est pourquoi nous ne saurions penser que c'est d'eux que le Seigneur a voulu parler quand il a dit « Faisons une aide à Adam. » Ainsi, pour que nous ne puissions appliquer aux animaux cette parole « Faisons à Adam une aide », l'écrivain sacré commence son récit par ces mots « Mais pour Adam, il ne se trouvait point d'aide qui lui soit semblable. » C'est comme s'il nous disait « Tous les animaux ont été créés pour le service de l'homme, et ils ont reçu de lui leur nom, mais aucun n'est digne d'être son aide. » Aussi, voulant nous raconter la formation de la femme, a-t-il soin d'introduire le Seigneur qui prononce cette parole « Faisons à Adam une aide qui lui soit semblable » qui soit digne de lui, produite de la même substance et son égal. C'est pourquoi Moïse dit « Mais pour Adam, il ne se trouvait point d'aide qui lui soit semblable. » Et il nous indique par là que, quelque grand que soit à l'égard de l'homme les services des animaux, l'aide de la femme sera pour Adam bien plus excellente en toute manière. Et le Seigneur Dieu, dit l'Écriture, envoya à Adam un profond sommeil, et pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et mit de la chair à la place. Et le Seigneur Dieu produisit la femme de la côte qu'il avait ôtée à Adam et l'amena devant Adam. L'énergie de ses paroles est grande et elle surpasse l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi l'on ne saurait les comprendre qu'en les approfondissant avec l'œil de la foi. Dieu, dit Moïse, envoya à Adam un profond sommeil et pendant qu'il dormait. Quelle exactitude de doctrine et quelle sublimité de langage ! L'écrivain sacré, ou plutôt l'Esprit Saint par sa plume, nous apprend ici deux choses : le profond sommeil d'Adam et les suites de ce sommeil. Mais ce sommeil ne ressemblait en rien au sommeil ordinaire. C'était pour qu'à son réveil, Adam ne s'aperçoive pas de ce qui était arrivé, car il devait plus tard en être instruit, quoique dans le moment même, il n'en ait aucune connaissance. Ainsi, le Seigneur disposa-t-il toutes choses afin de lui ôter tout sentiment de douleur et de tristesse. Il enleva donc une de ses côtes sans qu'il n'en ressente aucune souffrance, et il mit de la chair à la place pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Or, c'est de cette côte que Dieu forma la femme. Récit admirable et qui surpasse de beaucoup l'intelligence de l'homme. Au reste, tel est le caractère de toutes les œuvres de Dieu, et ce n'est pas ici un moindre miracle que d'avoir formé Adam d'un peu de poussière et de boue. Mais observez encore comme l'Écriture s'accommode à notre faiblesse. Et Dieu, dit-elle, prit une des côtes d'Adam. Gardons-nous bien d'interpréter ces paroles d'une manière toute humaine, et ne voyons dans leur humble simplicité qu'une pure condescendance envers notre infirmité. Car si l'Écriture ne s'était ainsi exprimée, comment aurions-nous pu comprendre ces profonds mystères ? Arrêtons-nous donc, bien moins au sens littéral, qu'à des pensées dignes de Dieu. Ainsi, cette parole « et Dieu prit » et tout autre semblable ne sont que pour se proportionner à notre faiblesse. Et le Seigneur Dieu produisit la femme de la côte qu'il avait ôtée à Adam. Admirez l'exactitude de l'Écriture, elle ne dit pas « Dieu forma » mais « produisit » parce qu'il prit une portion de chair déjà formée et qu'il ne fit que l'augmenter. Dieu produisit donc la femme, non par l'acte d'une création nouvelle, mais en ôtant à Adam une portion de chair et produisant de cette faible portion un être complet en toutes ses parties. Combien donc est grande la puissance du Créateur qui, avec si peu de matière, a formé les membres souples et élégants de la femme et a produit cet être si parfait qui est doué d'une exquise sensibilité et qui procure à l'homme une douce société et une grande consolation. Car c'est pour la consolation de l'homme que la femme a été formée. Aussi l'apôtre dit-il que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voyez donc comment toutes choses sont faites pour l'homme. L'univers était créé ainsi que les animaux qui devaient servir à sa nourriture ou l'aider en ses travaux, mais il lui manquait une compagne qui puisse converser avec lui et qui, étant de la même nature, puisse embellir son existence. C'est pourquoi Dieu prit une de ses côtes et, par un acte de sa suprême sagesse, en forma un être doué de raison, en tout semblable à l'homme et capable de lui venir en aide dans les besoins comme dans les douceurs de la vie. Or, c'est Dieu lui-même qui, dans son infinie sagesse, a ainsi disposé et arrangé toutes ces choses, et quoique notre esprit soit trop faible pour les comprendre, nous ne laissons pas de les croire parce que tout est soumis à sa volonté et à son commandement. Et le Seigneur produisit la femme de la côte qu'il avait ôtée à Adam, et il l'amena devant Adam. Comme la femme n'avait été formée que pour Adam, le Seigneur la lui amène et semble lui dire « La création entière ne pouvait offrir une aide qui te soit semblable. Aussi t'avais-je promis une compagne digne de toi. J'acquitte aujourd'hui ma promesse en te présentant ce nouvel être parfait et accompli. » Le Seigneur amena donc la femme devant Adam et Adam dit « Voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. » Cette parole nous montre qu'Adam reçut alors de Dieu l'esprit de prophétie, de même qu'il en avait reçu le don admirable de la science. Ce fut en effet par suite de ce don qu'il imposa à chacune des espèces si nombreuses des animaux, leurs noms propres et véritables. Mais ici, l'écrivain sacré a eu bien soin de nous avertir qu'Adam avait été plongé dans un profond assoupissement, en sorte qu'il avait eu aucune sensation de ce qui s'était passé en lui. Aussi, lorsque, à la vue de la femme, il se montre instruit de tout, nous ne pouvons douter qu'il n'ait reçu l'esprit prophétique et qu'il n'ait parlé par l'inspiration du Saint-Esprit. Adam ignorait humainement la création de la femme, et cependant, dès que Dieu la lui amène, il dit « Voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair ». Un autre interprète, au lieu du mot « maintenant », écrit une fois, comme si Adam avait déclaré que, pour cette fois-ci seulement, la femme était formée de cette manière, et que ce mode de génération ne se renouvellerait plus. C'est comme s'il avait dit « maintenant, la femme a été formée de l'homme, mais dorénavant, l'homme naîtra de la femme, ou plutôt de l'union des deux sexes ». Voyez-vous avec quel soin Adam lui-même nous explique sa pensée, et comme il pénètre l'avenir de son regard prophétique ? Celle-ci, dit-il, s'appellera du nom pris du nom d'homme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Cette première parole nous rappelle que Dieu prit une des côtes d'Adam pour en former la femme, et la suivante nous révèle l'avenir. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une même chair. Mais qui lui avait appris toutes ces choses ? D'où pouvait-il connaître l'avenir et le mode de la propagation du genre humain ? Quelle idée, surtout, pouvait-il se former de l'union des deux sexes, puisque cette union n'exista qu'après la chute de nos premiers parents ? Jusqu'à ce moment, ils vécurent dans le paradis terrestre, d'une vie tout angélique, et ne connurent ni les feux de la concupiscence, ni la révolte des passions. Ils ignorèrent également les maladies et les divers besoins du corps, car ils avaient été créés incorruptibles et immortels. Quant à l'usage des vêtements, l'Écriture dit qu'ils étaient nus et qu'ils n'en rougissaient pas. C'est qu'avant le péché, la désobéissance, la grâce divine était comme leurs vêtements. Aussi ne rougissaient-ils point de leur nudité. Mais dès qu'ils eurent violé le précepte du Seigneur, ils connurent qu'ils étaient nus et ils en rougirent. Qui suggéra donc à Adam les paroles qu'il prononça alors ? Et n'est-il pas évident qu'il reçut le don de prophétie et qu'il découvrit l'avenir du regard de l'intelligence ? Ce n'est pas sans raison que j'appuie sur ces détails, car il nous montre l'immense bonté du Seigneur envers le premier homme. Il menait dans le principe la vie des anges, était enrichi de 1000 bienfaits et possédait même l'esprit prophétique. Aussi, lorsque vous le voyez, après tant de grâce et de faveur, devenir prévaricateur, gardez-vous de rejeter la faute sur Dieu et n'en accuser que l'homme. C'est lui seul, comme je le dirai plus tard, qui s'est privé de tant de biens par sa désobéissance et qui a été légitimement condamné pour son péché. Mais je m'arrête ici pour ne pas trop prolonger ce discours, et je remets à demain l'explication des embûches que le démon tendit à nos premiers parents. Je termine donc en vous priant de retenir mes paroles d'aujourd'hui et d'en faire le sujet de vos entretiens, afin que vous les graviez plus profondément dans votre mémoire. Car le souvenir habituel des grâces dont Dieu comble le premier homme ne peut que nous porter à une juste reconnaissance et nous inciter puissamment à la vertu. Il est certain, en effet, que celui qui nourrit en son cœur la pensée des bienfaits du Seigneur s'efforcera de ne pas s'en montrer indigne. Bien plus, il s'appliquera à mériter par sa reconnaissance que Dieu lui en accorde de nouveau. Et notre Dieu n'est-il pas généreux ? Et s'il voit que nous lui sommes reconnaissants de ses premières grâces, il nous en donnera de plus abondantes encore. Soyons donc toujours attentifs à l'affaire de notre salut et ne laissons point nos journées s'écouler dans une lâche oisiveté. Préoccupons-nous beaucoup moins d'avoir passé la moitié du carême que de savoir si nous avons commencé dans la vertu et si nous nous sommes corrigés de quelques défauts. Seizième homélie. Ils étaient nus et ils n'en rougissaient pas. Et ils étaient tous deux nus, Adam et la femme, et ils n'en rougissaient pas. Considérez, je vous y invite, l'éminent bonheur de nos premiers parents. Combien ils étaient élevés au-dessus de toutes les créatures sensibles et grossières. Ils habitaient moins la terre que le ciel. Et quoique revêtus d'un corps, ils n'en sentaient pas les infirmités, puisqu'ils n'avaient besoin ni de toit, ni d'habits, ni d'aucun autre secours extérieur. Or ce n'est point sans raison et sans motif que la Sainte Écriture entre dans ce détail et nous apprend que leur vie était exempte de douleur et de tristesse, et que leur état était presque celui des anges. Elle veut qu'en les voyant ensuite dépouillés de tous ces privilèges et tombés d'une haute opulence dans une profonde misère, nous n'attribuions leur chute qu'à leur propre négligence. Au reste, il est important de faire attention à ce passage entier de la Genèse, car Moïse a dit d'abord qu'Adam et Ève étaient nus et qu'ils n'en rougissaient pas. Et comment eussent-ils connu leur nudité, puisque la gloire céleste les parait comme d'un superbe vêtement? Puis il ajoute que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait créés sur la terre. Et le serpent dit à la femme, « Pourquoi Dieu vous a-t-il dit, ne mangez pas du fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin ?» Voyez-vous la noire jalousie du démon et ses embûches multipliées, il ne put souffrir que l'homme soit placé dans un rang d'honneur qui l'égalait presque aux anges. En effet, le psalmiste dit de l'homme, « Seigneur, vous l'avez un peu abaissé au-dessous des anges. » Et encore cette expression, un peu abaissée, se rapporte-t-elle à l'état qui a suivi le péché de la désobéissance, puisque David parlait après la chute de l'homme. Le démon voyait donc que l'homme était un ange sur la terre, et la vue de son bonheur faisait sécher d'envie cet auteur de tous les maux. Car lui-même avait fait partie des cœurs célestes, mais sa volonté mauvaise et sa grande malice l'avaient précipité du plus haut des cieux. C'est pourquoi il tenta de rendre l'homme désobéissant, afin qu'en lui faisant perdre la grâce divine, il puisse le dépouiller des biens dont le Seigneur l'avait enrichi. Comment s'y prit-il ? Il se servit du serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, ainsi que nous l'apprend Moïse. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur avait créés sur la terre. Ce fut l'instrument qu'il mit en œuvre pour tromper la femme et pour la séduire par une insidieuse familiarité, comme étant plus faible et plus simple que l'homme. Et le serpent dit à la femme, « Cet entretien nous montre que dans le principe, ni l'homme ni la femme n'avaient frayeur des animaux, et que ceux-ci reconnaissaient tous leur empire et leur autorité. Les bêtes sauvages et féroces étaient alors aussi soumises que le sont aujourd'hui les animaux domestiques. » Voilà donc ce commentaire de Saint Jean Chrysostome qui est un père de l'école antiochienne et qui pourtant, vous voyez, nous offre un commentaire très spirituel sur ces passages de la Genèse. Je ne m'y étends pas. Ils vous ont sans doute été déjà commentés et disséqués. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre donc avec le récit de la tentation et de la chute. Au revoir.